Tong 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 ici France Inter Londres. Nous continuons à parler aux Français. Nicolas Ier ne nous aime pas. Surtout Stéphane. Salut Stéphane. Bonne chance les Français. Bonne chance. C'était Jean-Pierre de Saint-Égrève. Salut.
Bonjour. Je suis Anne de Bretagne et puis j'entendais donc ce matin que Nicolas Sarkozy n'aime pas France Inter. Ben moi je voulais dire que j'aime France Inter. Bonne journée.
Grand moment de désinformation ce matin lors du journal de France Inter. À propos de la Guadeloupe, aucune mention n'est faite de l'attitude du MEDEF dans la non-signature de l'accord salarial. Puis on apprend que la grève c'est plutôt chiant. Ça, c'est de l'info. Ensuite, deux reportages où on apprend que les gens mangent des sandwichs à Marseille et que d'autres chantent dans des salles de sport. Ça y est, Jean-Pierre Pernaut est directeur de France Inter ? On savait pas. C'est Nicolas Bourgoin.
Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux selon laquelle la croissance réduit les inégalités. Cette argumentation, permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive, est une escroquerie intellectuelle sans fondement. Jacques Attali, 1973.
Daniel, tu as une curieuse façon de raconter tes histoires. En ce qui concerne les béquets qui détiennent le pouvoir économique, il faut se rappeler qu'ils n'en détiennent que 30%. C'est l'État, avec ses déversements d'argent public, qui procure 70% des revenus de la Guadeloupe et de la Martinique. On peut toujours dire qu'au final, après une consommation débridée de gens qui en profitent au maximum, les béquets, par le biais du commerce, réussissent à en capter une grande partie. Mais enfin, il faut quand même ramener la juste part des choses. Vraiment, l'économie de la Guadeloupe et de la Martinique mérite de profondes réformes, de façon à ce que les gens se prennent en compte. Et on n'entend pas beaucoup les élus, de droite comme de gauche, de la Martinique et de la Guadeloupe. Apparemment, à part toucher leurs copieuses indemnités, ils ne se manifestent pas beaucoup. Voilà, j'écoute bien tes émissions, Daniel. Je pense qu'elles sont parfois contre-productives. Bonne continuation.
Allô, bonjour Daniel et l'équipe. Vos émissions sur la Guadeloupe, je les ai toutes écoutées. Elles sont absolument passionnantes. Et vraiment, j'espère que les gens là-bas vont pas caner et vont continuer le combat. J'ai une petite réserve, Daniel. Qu'est-ce que t'es prévenant avec ces pauvres Français qui se font traiter de blancs ? Qui c'est qui a commencé à dire noir, négro, négresse, négrillon, bamboula, face de cirage, moricaud, bougnoul ? Qui c'est qui a inventé les races, les métis, les cafés au lait, les quarterons, les bâtards, les capres et les machins ? Eh ben c'est les blancs. Et putain, ça fait des siècles que ça dure et ce monde-là, il est dominé par les blancs. Donc les blancs, faudrait peut-être qu'ils assument un petit peu de faire partie de ce putain de système qui te classe les gens depuis des siècles selon le degré de mélanine de leur peau. Et donc épargnez-nous vos commentaires racistes qui nous énervent. Enfin, en tout cas, moi, ça m'énerve. Bon, allez, merci et bon courage et bon tout.
Et pourquoi n'y a-t-il pas un jour férié pour commémorer ces jours terribles de mai 67 ? Ce serait la moindre des choses, me semble-t-il. Emmanuel, de Lyon. Ciao.
Et ben voilà, pour toutes ces raisons-là, on continue à évoquer ces journées de mai 67 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, des journées largement ignorées dans la mémoire collective française. On le vérifie à chaque moment, on le vérifie dans les messages que nous recevons de tous les côtés. En tous les cas, il y a une attention très particulière et qui nous comble évidemment par rapport à cette série d'émissions qui remue énormément de choses, de susceptibilités et puis évidemment des contradictions entre le lien avec la France, avec la métropole, entre ces Antilles, et évidemment une aspiration qui semble une pente naturelle vers, sinon l'indépendance, à défaut l'autonomie. Sur tous ces thèmes-là, il faut se référer à Aimé Césaire, bien sûr, qui a eu l'occasion, qui n'est pas seulement un poète, comme vous savez, c'était un homme politique, c'était un militant politique, et qui a eu l'occasion de réfléchir, lui et les siens, et les gens de sa génération, sur ces questions-là, et qui a donné un certain nombre de textes politiques très éclairants sur ces questions que nous découvrons un peu pour la plupart d'entre nous. De découvrir n'est pas un défaut, et qui sont autant de réponses à ces questions qui reviennent à chaque instant dans cette suite de reportages. Donc aujourd'hui, avec Solange Yvon Coudrieux. Solange, si vous allez voir, c'est le prénom d'un homme avec qui on va passer cette heure presque entière, qui est un des témoins, et plus que ça, aussi une victime, mais un témoin et quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ces journées. Il ne sera pas seul, ils sont quelques-uns à nous permettre de vérifier la formule fameuse des Français à part entière, mais entièrement à part, que furent et que sont ces Antillais si proches et si lointains. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Et voilà, les vacances scolaires sont terminées, chers AMG du Sud-Land et du Pays Basque. Fini de cela couler douce au soleil des colonies. Oh, pardon. Au soleil de nos îles départementales. Il est temps de retrouver le trinquet Saint-André de Bayonne pour un nouveau repère. Alors, le rendez-vous, c'est mercredi 4 à partir de 20h chez Jean-Yves au trinquet Saint-André. Au revoir.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Avis aux auditeurs modestes et géniaux du Pas-de-Calais. Réunion du repère ce jeudi 5 mars à partir de 18h30. Venez nombreux à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie. Beaucoup de sujets seront abordés. Nous parlerons du film Chomsky et compagnie que nous avons vu à Arras, de la fête à Babeuf organisée par François Ruffin à Amiens, de la Guadeloupe, etc., etc. Geneviève, Rebreuil-sur-Canche.
Bonjour à toutes et tous de là-bas. Ici à Paris 3e, depuis 10 mois, des travailleurs sans papier, isolés, continuent leur lutte et occupent l'annexe 20 de la Bourse du Travail. Alors nous ici, nous sommes beaucoup à penser que le communiqué du 5 février dernier, la commission administrative de la Bourse du Travail, jette le trouble en laissant planer une menace d'expulsion de ces travailleurs sans papier et de leurs familles occupant l'annexe Varlin. Cette situation est trop douloureuse, même en dehors de toute considération politique. Car avant d'être une cause, ce sont d'abord des femmes, des hommes et des enfants que nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Nous ne devons pas ajouter de l'angoisse à l'angoisse déjà grandissante face à la politique de Sarkozy, qui ne cherche qu'à nous diviser. Alors rejoignez-les à la conférence de presse de l'annexe Varlin de la Bourse du Travail et appelons ensemble à construire des perspectives largement unitaires pour obtenir la régularisation de ces 1300 travailleurs sans papier. Rendez-vous à l'annexe Varlin de la Bourse du Travail au 85 rue Charlot à Paris 3e, ce jeudi 5 mars à 11h, proche du métro République. Maël, Paris.
Les fans AMG Guadeloupe, amis et camarades de la Bastille, suis bonjour de l'île de la Révolution. En lutte contre la profitation depuis 44 jours, notre prochain Big Créole AMG Guadeloupe, c'est samedi 7 mars 2009 à 10h pétant, au nouveau repère de là-bas si j'y suis, dans le hall de l'ancienne chambre d'agriculture au Morne Bernard à Bémao. Le lieu est situé derrière RFO Téléradio Guadeloupe. Suivre le fléchage marqué AMG. La salle étant dépourvue de chaises. Prière de venir équipée de quoi vous asseoir. Au menu, la continuité LKP. Venez nombreux à grandir le cercle, vous êtes tous les bienvenus, passez l'info, Quimbé raide et pas Molly, c'est Molly qui raide, Adam de soleil.
Sacrifice à ça qui tombait, à génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Alors, revenons à 1967,
ah oui.
Les négociations ont lieu là. La foule est massée, enfin le public, le soutien populaire et syndical est là. Les lambis, le tas de lambis est là, les gros coquillages. Et la sous-préfecture est en face.
Pointe-à-Pitre.
Voilà. Avec déjà, si vous voulez, quand même un certain nombre d'hommes armés qui s'y trouvent.
Julien Mérillon.
Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une arrivée massive.
Historien.
De militaires venant de, des deux côtés, de là et de là, ce qui a le don, bien évidemment, d'excéder la population. À l'époque, c'est des gendarmes, on les appelle les képis rouges.
Les képis rouges,
parce qu'ils avaient un bandeau rouge sur leur képi, et c'est eux qui interviennent. Ils seront secondés ensuite par les CRS. Et qui a tiré le premier, est-ce une conque à l'ambi qui est partie, peu importe, toujours est-il que la première victime est morte là, à peu près. Par ici, c'est Jacques Nestor.
À nos pieds, quoi.
À peu
Jacques
près,
Nestor.
Oui, oui, Jacques Nestor. Il fait partie des gens qui soutiennent le mouvement et c'est un militant connu du GONG, du groupe d'organisation nationaliste de la Guadeloupe, qui vient d'être créé. Et il est là. Alors, a-t-il
c'est
été
le Jacques Binot de l'époque.
Voilà. Oh. Mais enfin, à part lui, ça a été clair que c'est les CRS qui ont tiré sur lui.
Ouf.
Donc, on lui tire dessus. Il tombe là. Alors, on tente de le ramener à l'hôpital. Et bien évidemment, quand il arrive, c'est trop tard. La colère monte. Les gens, bon, ils tirent sur les CRS.
Ils
occupent la ville.
Les CRS. Les gens sont armés.
Non, ils tirent des...
Ils tirent leur lambi.
Bon. Ouais, et ce n'est que plus tard, maintenant, que les jeunes vont piller des armureries. Il y avait une armurerie qui était là, le Valois. Elle est pillée par les jeunes qui descendent des quartiers, donc, et qui, bien évidemment, vont commencer eux aussi à riposter. Et à partir de ce moment-là, ce qui, au départ, était un affrontement entre les ouvriers, le patronat avec l'État interposé, devient une espèce de mouvement de protestation de la jeunesse. Et c'est la jeunesse printoise et des environs qui va occuper la rue, mener une véritable bataille de harcèlement, etc. Et là, on va commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Celui-là, sur la rue Alexandre-Isaac, là-bas, là, on en tuera un peu partout.
À Génération Assa qui tombait, ici là même, en mai 67.
Il y a un premier chiffre, qui est le chiffre de la préfecture, qui est publié dès le samedi, fait état de 8 morts. Personne n'y croit.
Camarades, nous allons continuer à marcher en silence.
Et nous arrivions juste à côté du boulevard, et brusquement, on voit arriver des camions qui tirent.
Il y a donc un certain nombre de CRS qui débarquent et qui tirent sur la foule.
Donc, on va continuer, tourner à l'entour à la place.
Une balle en pleine tête, Omertidas tombe.
Sacrifice à ça qui tombe.
C'est vrai que depuis 67, j'ai dans la tête ce bruit de fusil.
À ça qui tombe en mai 1967.
Alors, une véritable bombe interviendra en 1983. Lorsque le ministre de l'Outre-mer, M. Lemoine, va déclarer que, selon les sources et les éléments dont il dispose, il y aurait eu 87 morts.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bassie J'y suis, avec Antoine Chao, Guadeloupe, mai 1967.
Flight number 2. Arriving from New York.
Coudrieux. Coudrieux, C-O-U-D-R-I-E-U. Solange, Yvon Coudrieux.
Solange, mais c'est un prénom de femme. Ça fait combien d'années qu'on vous dit ça?
Ah oui, j'ai toujours entendu. Mais il y a beaucoup de Solange ici. On trouvait des Solange, des Nicole.
Oui.
Prénom de fille. Je crois que c'est l'homme que l'on voit avant tout et non le sexe. Oui.
Alors, Solange, donc... On est en train d'essayer d'évoquer ce que furent ces journées de mai 1967. On découvre quand même une page oubliée, hein, une page passée sous silence. Alors, certainement plus ici, à Pointe-à-Pitre, et certainement plus en Guadeloupe, mais en tout cas, largement dans l'Hexagone, on ignore cette page-là. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors vous êtes un témoin de ces journées.
Je suis un témoin de ces journées, mais avant de commencer, je vais dire ceci. Et je témoigne chaque fois par respect et solidarité pour toutes les innocentes victimes des vendredis 26, samedi 27 et 28 mai 1967. Je témoigne parce que ceux qui étaient en Guadeloupe à cette époque-là ont fait le silence où on nous a masqué ces événements. Or, c'est une page d'histoire de notre pays que nous devons connaître nécessairement. Je témoigne aussi pour ceux qui étaient ici, mais très jeunes. Ils ne pourront rien savoir si nous ne témoignons pas, si nous ne disons rien. Et puis je témoigne aussi pour ceux qui n'étaient pas en Guadeloupe et qui ont bien le droit de savoir.
Camarades, on va continuer à marcher en silence. Nous marchons à l'ionnage. à trois générations sacrifiées. Les premiers qui vont en tête entre 1801 et 1802. Deuxième en 1967. Et troisième là en 2009.
Avec son porte-voix, ce militant harangue les manifestants qui tournent en rond autour de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et il y en a beaucoup de choses sur cette place de la Victoire, beaucoup de symboles si on tourne en rond avec eux, avec ces manifestants. On voit le monument aux morts, de la guerre de 1914-1918. On voit l'Office du tourisme qui était à l'époque, qui nous intéresse, en 1967, la chambre de commerce et d'industrie, là où eurent lieu des négociations qui n'aboutirent pas entre les travailleurs en grève, les travailleurs du bâtiment en grève, qui demandaient au MEDEF de l'époque une augmentation de 2,5%. Si on continue à se tourner, on voit un petit marché là-bas au coin, près du quai. Et sur ce marché, qui marche un petit peu en ce moment, il y avait des accumulations de lambis. Vous savez, ces gros coquillages. On mange l'intérieur du coquillage et après il reste ce magnifique coquillage. Magnifique, il a servi de pavé à l'époque, en 67. De pavés qui furent lancés sur la tronche des gardes mobiles et des CRS. Si on continue, on aperçoit, c'est plus discret, un monument en hommage aux Indiens de l'Inde qui, à partir de 1848, sont venus vendre pas cher leur force de travail aux plantocrates. Eh oui, à la plantocratie déçue de l'abolition de l'esclavage et qui avait besoin de muscles et de sang frais. Ce furent les muscles et le sang frais des Indiens de l'Inde, de nos comptoirs. Un peu plus loin, au fond, on aperçoit la fameuse fresque qui a été inaugurée il y a si peu de temps et qui rappelle ces événements. À gauche de la fresque, les policiers, les forces de l'ordre tirent sur les manifestants. Et celui qui s'éclate de sang et de mort, c'est Jacques Nestor, un militant du gong, du GONG, dont on va parler. Si on continue encore, si on se retourne et qu'on continue de contourner la place de la Victoire, il y a la sous-préfecture, c'est un haut lieu aussi de la vie de Pointe-à-Pitre. Et puis, il y a la place elle-même, circulaire. Et au milieu de cette place, se tint la guillotine. Ah, grande affaire, la guillotine qui fut amenée de France pour couper le cou de ceux qui étaient les maîtres du pays à l'époque. Je dis pays parce que l'auditeur m'a dit « mais c'est pas un pays, c'est un département ». Pourquoi est-ce qu'un département ne serait pas un pays de ce pays ? Beaucoup de choses, beaucoup de symboles et beaucoup de douleur fantôme. Vous savez ce que c'est une douleur fantôme ? Quand, par exemple, il vous manque un bras, eh bien, on dit qu'on continue d'avoir mal à ce bras qui manque ou à cette main coupée. Eh bien, c'est exactement ce que Solange Yvon Coudrieux ressent. Il lui manque une jambe à Yvon Solange Coudrieux. Et c'est cette douleur fantôme qu'il va évoquer jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Guadeloupe, 1967.
Mai 67. Moudeur, mai 67. Petit à moi, déjà fin pour un fouet. T'es qu'à travailler, on t'est mal payé. T'es décidé de revendiquer. Mauvais l'habitude qu'a résisté, sauf savent qu'un bajouk à l'esclavage, au diamour, qui qu'a touché, revendiqué pas même palais. C'est 27 mai 67, à Bakoudi, c'était l'air couette. Mais situation là déjà bien bandée, petit en moins par tes vrais choulés. Mais quand même, déjà écrit, pas qu'à vraie raison, marchandé. Yo vin trouvé yo dépassé. Yo décidé crier l'armée. C'était en mai 1967, Guadeloupe est tombé assassiné. Joue sa prison pour mon papé, comme si ça n'a jamais existé. L'esprit a toujours tourmenté, faut déclarer la vérité. Vérité pour les martyriser, pour y trouver sérénité. Pour y trouver sérénité. Revendiquez pas même parler.
Donc, je m'appelle donc Soulange-Yvon Coudrier. À cette époque, j'étais professeur d'éducation physique, maître nageur sauveteur, et je me suis retrouvé à Pointe-à-Pitre ce vendredi 26 mai pour acheter un maillot pour ma mère. La fête des mères, c'était le 28 mai. Un maillot de bain. J'allais, au fait, inaugurer mon examen en amenant ma maman à la mer et commençant à lui apprendre à nager.
Ah.
Je commencerai, oui. C'est pour cette raison que je me suis retrouvé ici.
Vous étiez devenu maître nageur. Et vous avez dit, je vais acheter un maillot de bain à ma mère pour lui apprendre à nager, maintenant que je suis maître nageur.
Maître nageur. Parce que, s'il faut aller plus loin, maman avait eu un accident en mer, elle avait eu peur de la mer. Et lorsque cet examen s'est présenté, j'ai dit, bon, je vais faire l'examen pour deux raisons. Ramener maman à la mer, puisqu'il faut aller à la plage.
Ramener ma mère à la mer.
Ramener ma mère à la mer. Et demander à mon maire de construire une piscine à Sainte-Rose, pour apprendre aussi la natation aux jeunes et à tout le monde.
Oui. Et puis ?
Et puis, donc, je suis venu ici. Le magasin avec lequel j'avais rendez-vous était fermé. Donc, j'ai vu quelques gendarmes là. Je suis rentré chez moi. Et à 18h, un flash de Radio Guadeloupe disant que le calme est revenu à Pointe-à-Pitre. Donc, j'ai quitté tranquillement la maison des beaux-parents pour aller vers la mairie qui se trouvait sur l'assainissement, la nouvelle mairie de Pointe-à-Pitre. Le tort qu'on avait ce jour-là, c'est d'être sorti, d'avoir écouté RFO, qui disait que le calme était revenu à Pointe-à-Pitre. Là, on nous a envoyé dans la gueule du loup. Vraiment, on nous a envoyé à la boucherie. Tous ceux qui sont sortis à ce moment-là, c'était des gens qui n'avaient rien à voir avec la grève.
Vous n'aviez rien à voir avec la grève.
Je n'avais rien à voir avec la grève. Je ne savais même pas qu'il y avait cette grève. Et cette grève, je répète, c'est une grève qui avait été déclenchée par les ouvriers du bâtiment qui demandait 2% sur le traitement indiciaire brut. Nous avons reçu 2000 balles. Et ça s'est passé à côté, là, voyez-vous. La réunion a eu lieu avec les patrons à l'Assemblée de commerce et de l'industrie. Mais ça, je ne savais pas tout ça. Je ne m'y étais pas intéressé, j'avoue. Je ne m'y étais pas intéressé. Et à ma droite, j'ai vu un jeep et trois voitures de militaires. J'ai dit, bon, je me suis apitoyé sur leur sort. J'ai dit, bon, ils regagnent la caserne. J'ai entendu une première détonation. J'ai dit, tiens, il y avait France Antilles qui brûlait. J'ai cru que c'était une vitre de France Antilles qui éclatait. Et j'ai entendu une deuxième détonation. À ce moment-là, je me suis senti soulevé de terre. Et je suis tombé, j'ai vu ma jambe droite qui était presque arraché. Là, j'ai fait le mort. Je dis qu'il y a quelque chose, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort parce que j'ai dit que celui qui a tiré sur moi était un tireur d'élite, ça c'est sûr, parce qu'on m'a pris. Le dos, j'avais le dos tourné, ils m'ont tiré dans le dos comme un lapin. Bon, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort, je suis resté à terre et criant, demandant aux gens de venir me ramasser. Mais je vois, personne ne voulait venir me ramasser. Personne n'est venu.
Votre jambe était arrachée, vous n'avez pas perdu connaissance.
Non. Alors là, j'ai fait vraiment jouer ma force physique, ma force sportive. J'ai l'âme sportive. J'étais un professeur d'éducation physique et j'étais un sportif. Donc, c'est vrai, mon cœur est parti un petit peu à la chamade, mais j'ai fait la respiration contrôlée. Je n'ai jamais perdu connaissance, je n'ai jamais crié, je n'ai jamais pleuré. J'ai tenu... Bon, j'ai dit qu'il faut pas que je reste à terre. Et on m'a ramassé.
87 morts,
officiellement, chiffre reconnu par le ministre de l'Outre-mer en 1985, 87 morts, mais pour le comité mai 67 qui s'est constitué, il y aurait beaucoup plus de victimes que cela. Là, on parle des morts, il y a eu des centaines de blessés. Et ce comité s'est tourné vers Ramayadeh pour demander la reconnaissance de ce massacre, le jugement et la condamnation des coupables, la réhabilitation des victimes et la réparation des préjudices. C'est une mémoire vive, c'est une mémoire douloureuse, et surtout, ce sont des événements inconnus, non plus, évidemment, non pas non plus des Guadeloupéens eux-mêmes, mais du reste du pays.
Lorsqu'on m'a ramassé, on m'a emmené un peu vers le noir, et là, les gens qui me connaissaient, c'est Solange, c'est M. Coudrieux, c'est Soso, enfin, on m'appelait Soso aussi, et les gens de ma commune. Et alors, on m'a embarqué dans une Dauphine. Parce qu'il faut vous dire que ce jour-là, les forces de l'ordre avaient bien reçu l'ordre de tirer sur tous ceux qui étaient noirs, qui bougeaient, en utilisant toutes armes. Et il n'y avait aucune sommation et aucun couvre-feu. Aucune sommation, aucun couvre-feu. Celui qui a tiré sur moi était un tireur d'élite, ça c'est sûr. C'est ce qu'on m'a appris. Je sais ce que je dis parce que je ne suis pas fier de ce que je vais vous dire, mais j'étais en Algérie, j'ai fait la bataille d'Alger, j'ai été formé comme militaire, et l'armée 58 m'a déterminé à ne pas rester dans l'armée française. J'ai vu trop de choses, j'étais jeune. Hein.
Vous étiez militaire, vous étiez engagé?
J'étais engagé, je voulais faire militaire. Je voulais faire une carrière militaire. Ah oui, j'étais engagé.
Et vous étiez engagé à cause de l'Algérie, parce que vous voulez que l'Algérie reste française?
Non. Non, c'est pas à cause de l'Algérie française. Non, de l'Algérie reste française, non. Mais on m'a envoyé en Algérie parce que je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser parce que j'étais un engagé. On m'a désigné pour aller en Algérie. Je ne pouvais que suivre, hein. Mais moi, j'ai vu l'Algérie, c'était la répression aveugle en Algérie.
Vous étiez arrivé quand en Algérie?
Je suis arrivé en Algérie en janvier 57.
Janvier 57.
J'ai fait, oui, 58, 59, 60. J'ai fait 4 ans de guerre. J'ai laissé en 61. Donc j'ai fait surtout la bataille d'Alger. Mais enfin, moi, je vous assure que j'ai compris. Lorsqu'on nous a permis de prendre contact avec l'Algérien, j'ai compris cet homme-là. Et je suis content d'être allé en Algérie parce que j'ai vu ce que c'est qu'une guerre. La guerre est bien faite pour ceux qui ne la font pas, dit-on. J'ai vu ce qu'est une guerre. La réaction, la volonté, la ténacité, le courage d'un peuple qui veut arracher sa liberté et sa dignité humaine.
Et pourtant, vous étiez là pour, comme militaire, pour réprimer ce peuple.
Mais quand j'ai compris que ce peuple-là, j'ai discuté avec ce peuple-là, je préfère vous dire que, oh là là, il ne fallait pas attendre sur moi pour réprimer qui que ce soit. Ah non.
Vous étiez au courant de la torture qui était pratiquée en Algérie à l'époque?
Je n'étais pas loin de la Villa Susini, monsieur. Mais si, on réprimait énormément. On cassait du bougnoul. Comme ici, on essaie de casser du nègre en 67, on cassait des bougnoul. Ah, qu'est-ce qu'ils ont souffert à la Villa Susini? Oh oui, Susini. Ah oui. Quand un peuple combat pour sa liberté, on ne peut pas être contre. Les Algériens étaient vraiment considérés comme des sous-hommes. Ah oui, on crachait sur, on donnait des coups de pied. Ça n'était rien. L'Algérien n'était rien. Ce que j'ai vu, l'Algérien n'était rien.
Est-ce que vous faisiez un lien entre le sort des Algériens et le vôtre et celui des Guadeloupéens?
Mais bien sûr, monsieur. Nous étions décolonisés. Nous sommes décolonisés. Pourquoi en Algérie, j'ai dit qu'un colonisé ne peut pas faire la guerre à un autre colonisé? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais tiré sur personne. D'ailleurs, à la fin, j'ai fini la guerre, mon contrat, sans armes. Hein. Sans armes. Je dis, je n'ai rien fait aux Algériens. Il doit comprendre que je ne lui ai rien fait. Il comprenait aussi. Il savait que nous étions colonisés comme lui.
Après l'Algérie et l'Indochine, il fallait en finir. Hein. Il n'y avait plus question d'avoir la mémoire. Il fallait casser Genève, casser toute possibilité de révolte à l'état embryonnaire.
Toi, les Genèves qui arrivent, nous gagnons des sangs. Ils mettent près d'un canon avec les. On m'a dit qu'il y a passé. La radio, pour j'en parler de révolution, pas ni couvre-feu. Ah, le couvre-feu, on s'en fout. Nous avons hors de tirer sur les nègres comme sur des lapins. j'ai dit à la situation, là, ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire?
Songé, mes 67, à peine on en est après, qu'elle m'a même fait. Dit que c'était esclavé, mais qui bidin qui fait
qu'on m'aime mort.
Donc, dis-moi que Babylone jouait, ça va pas parce que j'en louais. En notre temps, presse tout pour nous oublier. Parce qu'elle fait colère les parents. L'armée légionnaire, oui, armée chouillée. Tous les nègres caillotés, t'as compris. On bande assassin, ni chouillé, yo. Tout ça l'air que calme moi. Avant, pas moi, aïe, crié.
Pas pour faire qu'il y ait des pouvoirs. Mais la population là, qu'a représenté pour une force d'occupation.
Un chabin d'un coup mourino. Et il s'est trouvé, malheureusement, au mauvais endroit, le 26 mai, il a été tiré. En tout cas, le fait, c'est comme ça se passe ici, il y a eu la réémotion. Une voiture d'équipe de rouge avec un fusil mitrailleur monté. Se sont mis à tirer depuis l'entrée d'un coup mourino. Lorsqu'ils sont partis, il y avait un mort. Voilà un autre meurtre dont j'étais témoin.
Ça a été clair, net, sans bavure. On a ordre de tirer sur les nègres comme sur des lapins.
Revenons à votre histoire, là. On vous a laissé pantelant sur le bord du trottoir.
Je suis resté pantelant sur la rue et on est venu me ramasser. Et lorsque l'ambulance est arrivée, parce qu'on tirait aussi sur l'ambulance, hein, on a tiré sur l'ambulance. Hein. L'ambulance est venue me ramasser et à ce moment-là, j'ai encore fait une respiration contrôlée parce que je sentais que ça partait. Il y avait quand même bien une bonne demi-heure que j'étais à terre comme ça et que le sang giclait. Mais là aussi, j'ai serré les dents, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est le sportif. Je dis, je ne dois pas laisser ma peau là. Il faut que je reste vivant pour témoigner. Et je suis arrivé donc à l'hôpital. Il faut amputer la jambe parce que quand on m'a soulevé, j'ai vu tomber des os et de la chair. Ensuite, on m'a mis sur un lit. Un prêtre est venu me donner l'extrême onction. Je lui ai dit, mon père, ce n'est pas aujourd'hui que je mourrai. Ensuite, l'infirmière qui est venue, je dis, je m'appelle bien Solange Yvon Coudrier, sans X. Après, j'ai senti une grande fraîcheur et je ne peux pas dire ce qui s'est passé après. Je crois avoir pris connaissance 8 jours après, parce que mon cœur s'est arrêté 3 fois. Hein, heureusement que c'était solide. Hein. Mais j'étais en forme. Hein. J'étais en forme. Je me préparais, monsieur, pour faire 24 heures de marche sur la place de la Victoire en 1967, au mois de mai même. 24 heures, je voulais tester ma résistance sur la place de la Victoire.
Sur cette 24... place qui est devant nous, là, sur cette place circulaire qui est devant nous.
C'était
la veille de cet exploit.
Oui. L'avant-veille de cet exploit. Vous vous rendez pas compte, hein. Et puis tout a été cassé comme ça. Les forces, ici, monsieur, nous recevons les forces dites de l'ordre. C'est des forces de répression qui sont là pour réprimer. On nous a réprimés en 1910, on nous a réprimés en 1946, on a tiré sur nous. On nous a réprimés en 1952, on nous a réprimés en 1967. Il y a environ 200 morts. Hein. Les parents enterraient leurs morts sans rien dire parce qu'on a fait courir le bruit que ce sont des indépendantistes qui avaient tiré sur les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, on est allé arrêter tous les jeunes du GONG, le groupement d'organisation nationale de la Guadeloupe, on les a arrêtés. Mais le GONG n'avait rien à voir au départ dans tout cela.
Le groupement des organisations nationales de la Guadeloupe. Voilà ce qui était visé ce jour-là en 1967. Les travailleurs du bâtiment, sans aucun doute, mais surtout, le GONG. On est en 1967, c'est-à-dire 5 ans après les indépendances. On est encore dans l'esprit des
des mouvements de décolonisation, on est dans l'esprit du réveil du tiers-monde, on est dans l'esprit de la révolution cubaine, et si vous regardez une carte, après tout, la Guadeloupe est beaucoup plus près de Cuba que de Paris, et se développe en Guadeloupe un mouvement indépendantiste qui a toute une histoire, mais qui à cette époque-là s'appelle le Gong, le G-O-N-G. Il y a quelques militants, ils ne sont pas très très nombreux, mais la France du général de Gaulle, ne veut pas de ça.
Alors, le Gong, groupe des organisations nationales de la Guadeloupe, voit le jour en 1963, en France métropolitaine.
Juste après les indépendances.
Et juste
Julien
après
Mérion.
Que le général de Gaulle est dissous le front anti-guyanais. Alors, il faut dire que bon, en 1962 se crée un front anti-guyanais pour l'autonomie, avec un certain nombre de personnalités, Glissant, Albert Béville, etc. Et ce front essaie, après les indépendances et après l'indépendance de l'Algérie, de poser la question institutionnelle outre-mer, la question politique, et il essaie surtout de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer les statuts et les régimes vers une forme d'autonomie relativement poussée. Ce mouvement est dissous par le général de Gaulle.
Il ne veut pas en entendre parler.
Pour la bonne et simple raison.
L'outre-mer, c'est la France.
Voilà. Et au nom, bon, c'est une entreprise séditieuse, et ce mouvement dissous, donc, les Guadeloupéens qui sont là-dedans, ils se disent, bon, mais écoutez, bon, nous, on va créer une propre organisation guadeloupéenne. Et ils se radicalisent, parce que parmi eux, à l'époque, 62-63, il y a des anciens du contingent d'Algérie qui sont allés et qui sont revenus et qui ont vu ce qui s'est passé en Algérie et qui en ont conservé une rancœur extrême. Et donc, quand ils reviennent, ils se disent, ah non, non, non.
C'est-à-dire que les Guadeloupéens sont allés buter du FLN, voilà. Casser du FLN.
Bon, il y en a qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés avec le FLN.
Oui.
C'est le cas de Roland Tesoros, c'est le cas de Sonny Rupert, il y a un certain nombre qui ont déserté plus ou moins simplement, ceux qui avaient déjà une conscience politique. Et d'autres, bon, se sont retrouvés enrôlés, mais par le contact qu'ils ont eu avec le FLN, par tout ce qu'ils ont vu, ils sont retournés. Ils sont retournés. C'est-à-dire que, bon, dès lors, ils avaient pris une conscience de ce que c'était la colonie, la colonisation. Et ce sont tous ces gens-là qui contribuent à former le Gong en 1963. Donc, ce sont les anciens du Front anti-guyanais, les étudiants de l'Association générale des étudiants de Guadeloupe et les anciens du contingent d'Algérie. Et ils forment donc le groupe d'organisation nationale. Et ce groupe naît, et bien sûr, il va développer son activité à Paris et commencer à s'implanter en Guadeloupe à partir de 65. Et c'est là qu'il recrute Jacques Nestor. C'est là que toute une série de personnes, si vous voulez, bon, vont rentrer dans cette lutte. Bon.
Alors, il milite pour l'indépendance.
Oui, il milite pour l'indépendance.
L'indépendance totale.
L'indépendance. Le Gong est pour l'indépendance. Le Gong est très radical pour l'indépendance. Il est contre les élections. Ils disent que, bon, les élections, c'est une base. Enfin, c'est un peu les slogans de 67.
T'es
la con, etc. Et on arrive effectivement à 67. Bon.
ORTF.
Les Antilles sont-elles à feu et à sang ?
1er mai 1968.
Décembre 59, à Fort-de-France, les autorités décident le couvre-feu après des événements raciaux et des heurts entre policiers et manifestants, bilan 4 morts. Mars 61, les grèves qui paralysent le sud de la Martinique font 3 morts et de nombreux blessés. À Paris se forme un Conseil national de libération composé d'avocats et d'écrivains libéraux. Procès d'une vingtaine de jeunes Antillais. Par ailleurs, les associations d'étudiants affirment leur désir d'indépendance.
Moi, je crois que en 1967, dans son analyse, le gouvernement se dit il faut en finir avec ce gong-là. Il sait très bien que ce n'est pas le gong qui est à l'origine de la grève des ouvriers du bâtiment, que c'est un mouvement syndical, même s'il y a quelques éléments du gong qui gravitent autour, mais c'est un mouvement syndical. Et le gouvernement a décidé de frapper pour empêcher la progression du gong. Donc, et des nationalistes d'une manière générale. Et c'est donc l'objectif qui est poursuivi en 1967. Je crois que bon, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle les massacres coloniaux, comme Sétif, comme ce qui s'est passé à Madagascar. C'est-à-dire, il faut stopper un mouvement à la base, avant qu'il ne s'étende. Et c'est ce qui va avoir lieu en 1967. L'analyse que l'on peut en faire, c'est ça. Donc, le Gong en est victime. Alors, il en est victime parce qu'il perd d'abord un de ses militants, en la personne de Jacques Nestor. mais surtout parce que l'on procède à l'arrestation généralisée de tous les responsables connus ou pas connus du GOM. On en arrête ici, on en arrête à Paris, et l'objectif aboutit bien évidemment au démantèlement de l'organisation, et c'est ce qui fait que le GOM en tant que tel, si vous voulez, c'est une période très courte de l'histoire, mais c'est une période qui manifeste une espèce de basculement. On sort, si vous voulez, des logiques qui sont des logiques d'intégration et on passe pour une fois à une logique de rupture. Jusqu'alors, si vous voulez, les logiques politiques étaient des logiques d'intégration. Et le gong fait balancer,
c'est ça.
Si vous voulez, l'équilibre en disant que bon, mais il n'y a pas d'issue dans l'intégration. Notre issue, c'est la rupture, c'est l'indépendance. Et c'est la première fois que la question est posée en tant que telle.
Kagoute te a Guadeloupe, pou y pe raconte. Avant moi la teni bon moun ki pote manèv. Avant moi la teni bon moun ki goume pou liberté. Avant moi yo tan pa parle répression syndicale kont si lili yon pays la pou yo te vivre kont de bois bois. Pitak, pitak, pays la rassonde. Pitak, pitak. En gagouté te à Guadeloupe, puis pe raconte. Avant moi la teni de jeune, te ka file on l'idée. Avant moi c'est nom du bout, jeune agon qui met en route. Pour yo te vante conscience, qu'on si conscience fait prendre fait. Oui, oui. Yo te ka file on l'idée. Pitak, pitak, pays la rassonde. Pitak, pitak, pays la rassonde. En kakoute te a Guadeloupe, pou y pe raconte. Tambour au loin, tini bon son, sans déjà savé. Sans bobre, sans bobre. Tambour au bré, ni sentiment. Nous pas v'lait tendé. A l'écouter du bon mystique en arrivant salutation. En bobine la rel. Ça la manjorita. Ça la manjorita. Ça, ça, ça la manjorita. Ça qui t'a en 7 ans. En gagout c'était à Guadeloupe. Puis peut raconter.
Camarade, nous pas continuer à marcher en silence. C'est un marché à l'alliage. À trois générations sacrifices.
C'est la voix du dévoilement qu'on entend là. Cet homme sur un banc avec un. Avec son mégaphone. Il est en train de dévoiler une mémoire enfoui. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent dans nos reportages, dans nos voyages, dans nos vies, tout simplement. C'est ces phénomènes d'occultation collective, d'enfouissement collectif de moments que tout le monde a vécu, dont tout le monde se souvient, mais que tout le monde occulte, dont plus personne ne parle. Et puis, il faut des années, et puis un jour, ça revient, ça remonte à la surface comme une tache qu'on n'arrive jamais à effacer tout à fait. Le calcul qui voulait que à Sétif, à Madagascar, on casse les choses dans l'œuf, eh bien, ça n'a pas marché, parce que aujourd'hui, l'Algérie est indépendante, Madagascar est un pays indépendant, la Guadeloupe est encore française, c'est la différence. Mais pour combien de temps encore, la question, qu'on le veuille ou non, est historiquement posée. On est avec toujours Solange Yvon Coudrieux, cet homme avec un prénom étrange, Solange Yvon Coudrieux, assis sur un banc, avec ses une béquille de chaque côté. Mais auparavant, on va revenir à Julien Merion. Julien Merion, qui est politologue et qui répond à sa façon, ou à la question qui se pose, comment cette histoire a-t-elle pu passer sous silence si longtemps ?
Bon, alors, en termes de commémoration, au départ, mai 67 est commémoré, je me souviens la première année, en 1968, c'est commémoré, effectivement, par les survivants, par un certain nombre de personnes. Et après, ça tombe en désuétude. Certes, lorsque nous étions étudiants à Paris, on organisait quelques manifestations, mais c'était quand même relativement limité. Bon, ça touchait une fraction de l'immigration, la fraction militante. Même de retour ici, et lorsque les organisations indépendantistes ont voulu prendre en charge, il y avait quelques manifestations. La plus importante, c'était d'aller porter une terre, une gerbe sous la tombe de Jacques Nestor. Chaque année, ça se faisait. Il y a eu une année, une stèle avait été, en 77, je crois, apposée. On avait monté une stèle sous la place de la Victoire, qui avait été détruite d'ailleurs par la mairie, les autorités. Donc, tout ceci montrait comment il y a eu. Et finalement, lorsqu'on a fêté les 30 ans de mai 1967, c'est-à-dire en 1997, les organisations culturelles s'en sont emparées, à Kiyo en particulier. Et il y a eu toute une série de manifestations, de débats, de discussions, de témoignages. Et c'est là que les gens ont commencé à parler. Et on a remis ça sur le tapis à partir donc de 1997.
C'est toujours une histoire de la génération.
Voilà. Et en 2007, c'est-à-dire par rapport à maintenant, ça fait deux, il y a deux ans, un an et demi, il y a eu là aussi un énorme... C'est là que cette fresque a été apposée. C'est à l'époque où, effectivement, toute une série de manifestations pendant toute une semaine se sont déroulées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, que la question revient, ressurgit, refait surface.
En Guadeloupe, un bas-relief de la révolte du 26 mai 1967 orne désormais la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre.
France 3, 28 mai 2007.
Le lieu même où une manifestation ouvrière pour l'évolution des salaires fut violemment réprimée. Il a fallu attendre 1985 pour que le gouvernement révise le chiffre de 5 victimes par celui de 87 morts officiels.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce que vous venez de dire là ? J'ai compris que la question... de l'indépendance en principe n'est pas posée aujourd'hui, mais enfin, elle est toujours là.
Elle est
quoi.
Toujours sous-jacente.
Elle est toujours sous-jacente.
Elle est toujours sous-jacente. Alors qu'est-ce qu'il en reste ? Bon, il en reste.
Est-ce que c'est pas maintenant le contraire ? Est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement français qui souhaite cette indépendance ?
Apparemment. Hein ? Si on écoute Sarkozy, on dirait que. Non, mais je suis d'accord avec vous, si on écoute Sarkozy, il y a une espèce de tournement.
Pour De Gaulle, l'outre-mer, c'est la France.
Ouais.
Pour Sarkozy,
il y en a foutre.
Rien à foutre.
Rien à foutre.
Il sait pas où c'est.
Voilà, voilà. Rien à foutre. Donc, ce qu'il en reste aujourd'hui, bon, d'abord, il y a toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire, qui sont encore vivantes, hein, et qui se retrouvent au sein du COPAGUA, le collectif des patriotes guadeloupéens. Bon, on retrouve encore un certain nombre dans des organisations politiques qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 80, le PLG en particulier, l'Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe, qui a été une organisation extrêmement puissante à une période, mais il reste encore quelques résidus. Mais il reste surtout une empreinte. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est l'empreinte. Le mouvement social actuel, si vous voulez, est la conséquence directe du mouvement indépendantiste.
Voilà.
Il ne faut pas se cacher, il faut voir la face. C'est la conséquence. Bon, en analysant les choses de façon très objective, si vous voulez, il est dans la continuité de ce mouvement indépendant. Il est d'abord, sur le plan organisationnel, l'UGTG est né de la mouvance indépendantiste. L'UGTG, en tant qu'organisation syndicale, qui est la première organisation syndicale de Guadeloupe, qui représente 53,6% des salariés aux dernières élections Puy-de-Dôme, l'UGTG affiche très clairement que l'objectif fondamental, c'est l'indépendance nationale. Ça n'est jamais caché. Le mouvement a connu...
Parce que l'opinion n'est pas favorable à l'indépendance.
Je sais bien. Et pourquoi l'opinion n'est pas favorable ? L'opinion n'est pas favorable pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a eu ces années violences où il y a eu des bombes. Il y a eu toute une série d'actions qui ont effrayé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, qui ont effrayé les gens. Et donc, une partie de l'opinion, elle se met en retrait. Et elle est aussi parce que je crois que les dirigeants, les responsables indépendantistes n'ont pas été à la mesure de hisser, en tous les cas, de sortir un projet politique crédible qui ferait de l'indépendance une alternative partagée.
Analyse du politologue Julien Merion à Pointe-à-Pitre. On revient donc à Solange-Yvon Coudrieux, témoin, victime aussi des événements de mai 1967 en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, mais qui a aussi, lui, son point de vue poli, on peut dire, par le temps.
Vous vous rendez compte, les pas n'ont pas pu
évacuer ces événements de mai 67. Les parents n'ont pas encore pu faire leur deuil. Je ne peux pas encore faire le deuil de ma jambe. Les dossiers nous sont fermés. On n'ouvre pas les dossiers pour que nous sachions exactement ce qui s'est passé. Alors, il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment de mai 67. Parce que c'est encore ce système colonial qui nous amène à faire perdurer une grève pour ne rien donner. On a cette même démarche quand on a... La démarche était en 1967. La grève a duré parce qu'un patron a dit « Je connais les nez, quand ils auront faim, ils viendront à mes pieds. »
C'était vrai, cette phrase-là?
Il a toujours démenti.
Si.
M. Brissac, un entrepreneur. J'ai lu que M. Ayotte dit la même chose. Il nous connaît quand nous aurons faim, nous terminerons cette grève. Enfin, eh bien, c'est la même démarche. C'est la même démarche de laisser pourrir la grève et pour ne rien donner. Nous sommes dans le même système. J'ai l'impression que les Français n'ont pas la culture de la décolonisation. Il faut toujours lutter. C'est par les armes qu'on arrive à arracher notre liberté. Et je n'exagère pas en le disant. C'est ce que nous vivons, monsieur.
Tout ce que vous dites là donne quand même envie. Moi, si j'étais Guadeloupéen, si j'étais un jeune Guadeloupéen qui écoute ce que vous dites, je me dirais, allons vers l'indépendance. Coupons le cordon avec cette satanée France.
Oui. Alors, là encore, je laisse cette place-là, cette réponse aux politiciens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais rien à faire, il faut un changement. Ou l'autonomie, ou l'indépendance, mais nous devons maintenant avoir un changement. La départementalisation est arrivée au bout. Il faut un changement pour qu'on puisse nous entendre, pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse admettre ce que nous voulons pour notre pays. Ce n'est plus la France qui doit choisir pour nous, monsieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donnez-nous des responsabilités. Nous pouvons prendre nos responsabilités. Ce n'est plus tenable, monsieur. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est que tout change. Donc, ça va changer, monsieur. Ça doit changer dans le calme, dans le respect, dans notre dignité. Mais ça doit changer. Et ça changera, monsieur. Ça changera.
Camarades, nous allons continuer à tourner à notre la place. Sacrifice à ça qui tombait, à génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 76.
Solange, on a oublié, ça fait drôle d'appeler quelqu'un Solange, mais on a oublié quand même la chute de l'histoire. C'est que vous étiez parti acheter un maillot de bain à votre mère pour lui apprendre à nager. Est-ce que finalement, vous lui avez offert le maillot de bain et finalement, est-ce que votre mère a appris à nager?
Non. Ah oui, c'est ça le regret. Non seulement je n'ai pas pu acheter le maillot de bain pour maman parce que ce magasin était fermé, mais le soir, on a tiré sur moi, j'ai perdu ma jambe droite. Et après, évidemment, j'ai été envoyé à l'hôpital en France pour me rééduquer, pour avoir un appareillage. Non, maman n'a pas eu le temps d'apprendre à nager.
Elle n'a jamais su nager.
Nous sommes allés une fois à la mer, à Cluny, mais je ne pouvais pas. On a essayé, mais je ne pouvais pas. Comme je suis déséquilibré, je ne pouvais pas la tenir pour lui permettre d'apprendre à nager. Elle est sortie et m'a dit, eh bien, tant pis, Soso, tu as fait l'effort. Maman te remercie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la fin. On a essayé une fois, mais ce n'était pas possible. Je lui ai payé son maillot après, oui, on a eu un maillot. Je lui ai payé un maillot bleu, parce qu'elle a conservé longtemps ce maillot. Je me demande s'il n'est pas encore là, je fouillerai dans tout son linge pour voir s'il ne le retrouve pas. Mais et puis, je n'ai pas encore dit la jambe droite quand même. Je dois vous rappeler que lorsque le maître prenait l'esclave qui se sauvait, il lui coupait la jambe droite. Et lorsqu'il prenait celui qui avait volé pour améliorer sa mécpitance, il lui coupait le poignet droit. Pourquoi je dis ça? Nous étions trois jambes droites dans différents coins de la ville. Trois jambes droites. Donc ils avaient bien reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui était noir et qui bougeait en utilisant toutes armes et sur des jambes droites. Nous étions trois jambes droites dans différents coins de la ville. Ce n'était pas innocent.
Moins sorti la menteur, au moins descend en ville. Avant moi t'es point godomi la grève, la barre et j'suis même ouin. Moi sorti la mentin, au moins descend en ville.
Avant moi t'es point de côte, au mille la grève, la barre et je suis même moi.
Merci à tous, merci à Solange Yvon-Caudrieux. C'était un reportage avec Antoine Chao, montage Guy Vanctil. Merci à Julien Mérion, Paul Tomich, Pierre Luce. Merci à David Clarin et Robert Dieupart. Merci à Gérard Tourtrol. Et puis nous vous signalons que Patrick Pénaud consacrera une émission sur les événements de mai 1967 à Pointe-à-Pitre, samedi à 13h19 dans l'excellent rendez-vous avec X. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Chérif Bitel Maggi, Koy Nguyen et Raphaël Moutier ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de la base J'y suis, qui est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il est 16h05 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.